9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, on va faire de la prévention ce matin avec le docteur Kaina Oussedig. Bonjour Kaina.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous voir.
Merci.
Le gars qui n'a pas insisté pour que vous veniez. Vous êtes docteur en biochimie moléculaire et alimentaire et vous êtes venu avec le docteur Karim Ferry. Bonjour docteur. Philippe. Vous êtes chirurgien urologue et tous les deux, vous publiez « Je gâte ma prostate » chez Flammarion. Vous avez compilé beaucoup d'études et d'études santé qui existent sur les effets de ce qu'on mange sur la prostate, mais surtout pour prévenir les maladies de la prostate. Alors j'ai appris plein de mots en lisant votre livre, mais un qui s'appelle la nicturie. Tiens, doc.
Alors la nicturie, c'est un terme qu'on emploie en médecine pour spécifier le fait de se lever la nuit pour uriner. Normalement, on urine une fois, mais quand on a une hypertrophie de la prostate, c'est-à-dire une grosse prostate qui commence à gêner, on se met à se réveiller deux fois, trois fois, quatre fois la nuit. Et ça, c'est un signe qui peut alerter qu'on peut avoir une prostate qui commence à faire des siennes.
Alors, c'est une question qui revient souvent. Hein. Je me lève la nuit pour aller faire pipi. Est-ce que c'est la prostate ? Alors, parce qu'on dit « est-ce que c'est la prostate ?» Mais est-ce que c'est forcément la prostate d'abord ? Et est-ce qu'il n'y a que cette pathologie qui pourrait donner envie de faire pipi la nuit ?
Non, déjà, il faut voir à quel âge ça apparaît. Quand c'est vers la cinquantaine, 55 ans, on peut se dire « oui, ça peut être la prostate en premier ». Après, il y a d'autres pathologies, comme les infections, comme le diabète, comme les gens qui ont de l'apnée du sommeil aussi, ça les fait se réveiller. Et puis on peut se réveiller parce qu'on est stressé et puis on va faire pipi machinalement. Mais c'est vrai qu'en premier lieu, il faut penser à l'adénome de la prostate.
D'accord. À partir de quel âge on s'intéresse à notre prostate ?
Alors, la prostate, l'hypertrophie, c'est la pathologie la plus commune, c'est-à-dire quand la prostate, elle grossit, elle commence à faire des siennes, c'est vers l'âge de 45-50 ans. Après, il y a une autre pathologie très importante pour la prostate qui est le cancer de la prostate. Alors là, il n'y a pas de symptômes malheureusement qui nous alertent sur un problème de cancer. C'est plutôt une prise de sang. On dose le PSA pour savoir s'il y a une suspicion ou pas de cancer. Et là, c'est plutôt vers 55 ans.
Alors le PSA, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ?
Alors, l'acronyme, c'est prostate spécifique antigène. C'est une hormone qui est produite que par la prostate. Alors, elle permet d'acidifier un peu le liquide séminal et de préparer les spermatozoïdes. Et elle augmente dans certains cas. Alors, il y a un taux minimal. C'est quand il est inférieur à 4 nanogrammes par millilitre. Quand il est au-dessus, on suspecte un cancer de prostate. Mais le PSA peut augmenter dans plusieurs autres situations. Et c'est pour ça que l'urologue, il faut aller le consulter parce qu'il pourra démêler un peu le tout. Ça peut augmenter quand la prostate est extrêmement volumineuse, parce qu'elle produit beaucoup de PSA. Quand il y a une inflammation ou une infection, il y a une augmentation de production de PSA. Et quand il y a une suspicion de cancer, aussi, il y a une augmentation de PSA. Mmh. Mais quand il est au-dessus de 4, il faut tiquer et il faut aller voir son médecin.
Et donc là, c'est forcément la prise de sang.
Oui. Alors maintenant,
on peut pas le doser autrement, le PSA ?
Le PSA, non, c'est la prise de sang. Alors maintenant, on essaye de doser un autre PSA que l'on peut retrouver dans les urines, mais c'est encore pas remboursé, c'est assez cher. Et on fait ça en deuxième, troisième intention. Et c'est réservé qu'à quelques centres.
C'est quoi, c'est un test urinaire dans ces cas-là ?
C'est un test urinaire, exactement.
Ouais, mais c'est encore trop...
C'est un peu cher et puis c'est pas encore validé.
C'est pas encore au point. Bon, alors depuis que j'ai lu votre livre, je le disais tout à l'heure en hors antenne, je mange de la tomate cuite, arrosée d'huile de pépins de courge. Tous les jours.
Saupoudré de curcuma, je vous ai dit.
Non, alors moi, j'ai pas fait ça encore, l'Alliance.
Et avec un thé vert.
Avec un thé vert. C'est vrai que vous répertoriez tous les aliments amis de la prostate et vous avez récupéré toutes les études qui existent sur ces aliments. Alors, comment est-ce qu'on doit utiliser votre livre, Kaina ?
Alors, ce livre, tout d'abord, bon, il a été fait en première intention pour vraiment parler de cette problématique qui est celle de la prostate. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a de plus en plus de patients hommes qui s'intéressent à leur alimentation, au bien manger, à comment se nourrir pour que tous leurs organes soient vraiment à l'équilibre. Mmh. Et c'est vrai que nous, on a essayé de répertorier une grande variété d'aliments, que ce soit le thé vert, le curcuma, le cumin, le gingembre, le citron, l'huile de pépins de courge, la tomate cuite, etc. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs études de fait, mais ce qui est sûr, parce que parfois il y a quelques contradictions sur certains aliments, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque nous mangeons tous ces aliments qui sont cuisinés, préparés à la maison, qui sont des aliments sains, évidemment, en face, on a toujours quelqu'un qui est en bonne santé et avec une bonne prostate.
Vous dites quand même que la prévention de ce cancer de la prostate passe par l'assiette. On est d'accord. Et qu'il y a des études qui le valident, ça.
C'est la première étude, je dirais, c'est celle qui montre que le patient, que la personne va s'intéresser à son alimentation, à son poids, à ne pas manger trop d'aliments raffinés, transformés, parce qu'elle a peur du diabète, à manger certains aliments sains pour ne pas grossir. Une personne qui s'intéresse déjà à ce qu'elle met dans son assiette, c'est déjà le début de la prévention.
Jusqu'à ce que ça devienne une habitude, on va dire.
Exactement, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Comme pour vous, Philippe.
Oui, moi je vous suis et je... voilà.
En fait, ce n'est pas un aliment qu'il faut prendre dans sa spécificité. C'est l'ensemble des aliments associés ensemble avec des habitudes de vie. Parce que dans le livre aussi, il y a une partie qui est consacrée à l'hygiène de vie.
Exactement.
Lutter contre l'obésité, le stress, le sommeil, avoir une bonne activité physique, éviter certains aliments nocifs comme l'alcool, le tabac, les produits laitiers à base de lait de vache ou la viande cuite.
Alors ça, voilà. Donc ça, c'est une des affirmations de votre livre. C'est que pour la prostate, il vaut mieux éviter la consommation des produits laitiers. Alors, qu'est-ce que vous appelez les produits laitiers ? Est-ce que les fromages rentrent dans cette catégorie ou pas ?
Oui.
Ouais, les fromages rentrent dans cette catégorie. Après, ce que nous appelons les produits laitiers, il faut être très, très... il faut qu'on soit tous d'accord sur ce que nous appelons les produits laitiers. C'est nous parlons des produits issus de vaches qui produisent trop de lait, enfin qui ont une production de lait anormale par jour. On n'est pas en train de parler de l'agriculteur qui prend soin de ses bêtes ou autre. Nous sommes en train de parler d'une agriculture un petit peu intense sur certains animaux, dont la vache malheureusement qui est en première position. Et donc c'est surtout de ces produits-là que nous parlons. Et lorsque ces produits sont crus, malheureusement, il y a pas mal de facteurs à l'intérieur, des facteurs de croissance que l'on connaît comme facteurs très inflammatoires. Et donc vont venir parfois perturber justement le fonctionnement
C'est l'IGF-1 de la prostate. C'est un facteur de croissance très important qui favorise les cancers et qui se retrouve dans ces produits laitiers.
IGF-1.
Ouais.
C'est insuline growth factor 1.
D'accord.
Oui.
Et quel est son rôle à cette IGF-1? Il n'est pas rajouté, ce n'est pas quelque chose qu'on rajoute dans le lait, non. Il est naturellement dans le lait de vache.
Exactement, ouais. Et c'est ce qu'on appelle un facteur de croissance en fait. Il active les cellules cancéreuses, il leur permet de se multiplier, de se diviser, il lutte contre leur mort programmée et ça permet au cancer de se développer. C'est un des principes des produits laitiers, enfin un des composants qui fait que les produits laitiers à base de lait de vache sont peu recommandés. Il y a aussi le fait que quand on mange trop de produits laitiers, on a trop de calcium, ça diminue la synthèse de la vitamine D qui a été montrée, qui est un puissant facteur anticancéreux aussi.
Mais l'industrie des produits laitiers va vous répondre avec une campagne qui va dire « Mais non, le calcium, c'est bon pour la santé et nous avons besoin de calcium pour nos os. »
Pas en excès.
Et si on n'a pas de calcium, vous augmentez les risques d'ostéoporose.
C'est vrai. Mais
c'est la dernière campagne que j'ai lue il n'y a pas longtemps.
Bien sûr. Mais c'est comme tout aliment. Si nous sommes dans l'excès, c'est pas bon. C'est comme tout aliment, que ça soit le calcium, que ça soit une vitamine, que ce soit un minéral. C'est comme tout ce qu'il y a dans notre assiette. Si on le supprime ou si nous le mangeons de manière excessive, c'est jamais bon.
Mais Kaina pourra nous le dire, le calcium, on ne le retrouve pas que dans le lait. Il y en a dans les lentilles, il y a d'autres légumineuses.
Dans les oléagineux, d'autres produits laitiers, mais qui ne sont pas de vache. Par exemple, si on parle de produits comme les produits de brebis, de chèvre, ça aussi, on peut utiliser lorsque, encore une fois, la production de ce produit laitier n'est pas une production intensive.
C'est une alternative. Ce que vous êtes en train de dire, que c'est par exemple le lait de chèvre ou de brebis, c'est une alternative.
D'ailleurs, on voit de plus en plus de parents qui nous consultent et qui sont déjà dans cette culture d'offrir plutôt des produits à base de brebis ou de chèvre pour leurs enfants. Parce qu'ils se sont aperçus vraiment de la différence, que ça soit chez le petit garçon ou la petite fille. On s'aperçoit tout de suite de la différence entre les produits issus de la vache, mais avec une agriculture, enfin avec une production intense versus des produits issus de la chèvre ou de la brebis qui en général sont des produits que l'on boude un petit peu parce qu'on va les trouver un peu forts, un peu...
Ils sont plus forts.
Voilà, exactement. Donc pour le moment, il y a on peut trouver des productions vraiment naturelles, pas intensives sur la brebis et la chèvre.
Après, les enfants, s'ils sont habitués tôt à manger des produits forts, c'est plus facile que s'ils les découvrent sur le tard.
Il y a le lait de soja aussi, par exemple.
Oui, mais est-ce que le lait de soja, c'est du lait déjà? Parce que ça n'a plus le droit de s'appeler lait.
Exactement.
C'est ça, mais ça n'a plus le droit de s'appeler
lait. C'est du jus de soja.
Mais au moins, il y a du calcium et il y a du soja. Le soja qui est un élément très important aussi pour la prostate.
Alors, exactement. Là, vous expliquez que le soja fait partie des éléments amis et des aliments amis de la prostate. Alors là, effectivement, vous savez qu'il y a une rumeur qui dit que finalement, si les hommes prennent trop de soja, ils vont avoir les seins qui poussent.
Exactement. Bon, il y a pas mal de polémiques et d'études qui ont été faites là-dessus. En fait, la polémique vient du fait que le soja est riche en ce qu'on appelle en produits de phytoestrogènes, en fait. C'est des hormones qui miment un peu l'action des oestrogènes, qui est l'hormone qui féminise l'hormone de la femme. Mais les études ont montré que le fait de consommer du soja n'entraîne pas plus de féminisation ou de diminution des performances sexuelles ou de la spermatogénèse chez l'homme, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes. Il faut juste mettre un petit bémol. Ce qui a été montré, en fait, c'est que c'était le soja qui était fermenté qui était peut-être plus problématique que le soja, comme le tofu.
Parce qu'attention, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que nous sommes en train de parler d'une hormone. Et lorsque le produit, il est cuit, ou on le prépare, donc on va le monter à haute température pour en préparer un produit secondaire, ça y est, une fois qu'il est à haute température, il n'y a pas d'hormone qui va résister à haute température. Donc c'est là où il faut faire attention. Lorsqu'on parle de certaines molécules, même lorsque nous parlons des IGF dans les produits de vache, il faut savoir qu'à partir du moment où on a cuit à haute température, toutes ces molécules, normalement, sont censées se détruire. Donc que ça soit les hormones dans le soja ou que ça soit les IGF dans le lait de vache, c'est pour ça qu'il y a des mamans qui disent souvent, moi je cuis le lait tout le temps, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est
Je le fais bouillir.
Hein. Exactement.
Avant, quand on allait à la ferme, on faisait bouillir le lait pour tuer les microbes.
C'est tout à fait ça, oui. On revient vraiment à toutes ces pratiques que nos grands-parents faisaient. C'est vraiment ça. Ils faisaient bouillir tout, d'ailleurs. Tout était bouilli, même l'eau était bouillie, tout était bouilli. Et ça, je pense qu'il faut revenir vers ce type d'habitude. Donc le soja cuit, normalement, il n'y a pas d'hormone à l'intérieur.
On va revenir sur le soja et surtout pourquoi ça fonctionne sur la prostate, hein, puisque le soja aussi, on le donne pour les traitements substitutifs. En cas de ménopause, votre livre s'appelle « Je gâte ma prostate » aux éditions Flammarion. Et on en parle justement de cette prostate jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bon, on parle d'un sujet glamour ce matin, la prostate, mais surtout de la prévention des maladies de la prostate. Avant, on disait j'ai la prostate, alors tout le monde assimilait ça à j'ai le cancer de la prostate, mais y a pas, la prostate n'est pas forcément malade du cancer, hein. Tout le monde mélange tout d'ailleurs.
Il y a trois principales pathologies chez la prostate, le cancer, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire quand la prostate elle augmente de volume et qu'elle gêne les hommes pour uriner, ils se réveillent, ils ont des urines qui sont un peu difficiles à évacuer ou ils font pipi beaucoup dans la journée. Et puis il y a la prostatite, c'est une pathologie plutôt chez l'homme un peu plus jeune où c'est l'infection de la prostate qui est parfois transmissible par les maladies sexuelles ou autres.
Voilà. Alors un autre mot que j'ai appris dans votre livre, c'est ce qu'on appelle les urgenturies. Docteur Ferry.
Les urgenturies, ça vient de urgence et urie qui vient d'urine. En fait, c'est quand on a très envie d'uriner et qu'on n'arrive pas à se retenir, ce qu'on appelle les impériosités. Et ça, c'est un signe. Alors, c'est pas un signe spécifique de l'adénome de la prostate, mais ça peut faire partie des signes de la prostate. C'est la prostate qui grossit un peu et qui excite la vessie, entre guillemets, et qui donne envie de faire pipi avec parfois une envie impérieuse et on peut pas se retenir et on a quelques gouttes qui sortent, en fait.
Oui, on peut parler dans ces cas-là d'incontinence urinaire.
Voilà. On peut parler.
On en parle beaucoup chez la femme, mais rarement chez l'homme, hein, d'ailleurs.
Le terme, c'est incontinence par impériosité, en fait, par urgentirie, on peut le dire. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est plus spécifique chez la femme.
D'accord. Et ça, comment ça se prend en charge, docteur Ferry?
Bah alors, il faut voir son urologue qui va vous faire un bilan classique avec une échographie, voir un peu votre prostate, la taille qu'elle fait, et surtout, il va voir si vous arrivez à vider votre vessie. Il va vous faire un examen des urines, ce qu'on appelle un ECBU, pour voir s'il n'y a pas des microbes. Parce que quand on a une infection urinaire, une prostatite ou une infection de la vessie, ça donne aussi des impériosités, des urgenturies. On peut faire aussi un dosage de PSA quand on vient voir l'urologue, ça ne fait pas de mal. Et après, bah, il vous prend en charge, souvent avec un médicament. Quand c'est la prostate qui est un peu grosse, nous, on aime bien donner des médicaments à base de palmiers, de Floride, c'est de la phytothérapie.
Donc et ça, c'est une des autres stars de votre livre.
Voilà, c'est un médicament qui est naturel, que j'apprécie beaucoup, qui est extrêmement efficace et qui a une bonne action sur l'inflammation de la prostate et ça diminue les symptômes urinaires.
Mais alors, on classe dans quelle catégorie? Donc c'est quoi? C'est un alicament, un complément alimentaire? C'est quoi?
Ça rentre dans la catégorie de la phytothérapie. C'est les médicaments à base de plantes.
Alors, il est pas dans les 10 aliments les plus amis de la prostate, mais il est à côté, hein, dans les compléments. Ce que vous appelez...
En fait, c'est un concentré qu'on utilise sous forme de traitement.
C'est les baies de palmier nain, c'est ça?
Exactement.
Oui. D'accord. Alors, vous expliquez qu'il y a pas mal d'études, hein, qui ont démontré son efficacité, notamment sur ce que vous appelez l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, on le trouve sous quelle forme, pour ceux qui nous écoutent?
Alors, on peut le trouver sous forme de gélules, qui est fabriqué par un laboratoire français. On peut le trouver sous forme de compléments alimentaires. Mais moi, je suis pas trop pour les compléments alimentaires. Je pense que le traitement fait par le laboratoire est extrêmement efficace. Il est éprouvé depuis 20 ans et il est extrêmement... bon pour la prostate. Je pense que c'est lui qu'il faut prendre, en fait.
Vous expliquez, pour justement donner un complément d'information dans votre livre, que c'est souvent associé à de l'ortie et qu'il faut se méfier de ce traitement, hein, à utiliser avec précaution quand même.
Oui. L'ortie, alors on voit fleurir un peu ici et là sur Internet le fait qu'on peut l'utiliser. L'ortie a une action anti-inflammatoire naturelle. C'est utilisé beaucoup dans les pathologies rhumatismales, articulaires, anti-inflammatoires. Et comme dans l'hypertrophie de la prostate, il y a une sorte d'inflammation autour de la prostate. Elle a été utilisée pour faire diminuer cette inflammation, mais il n'y a pas de véritables études qui valident cela. C'est pas comme le palmier de Floride où vraiment on a des études épidémiologiques, des études cas témoins qui ont montré qu'il y avait une réelle efficacité par rapport au placebo.
Le permixon.
Exactement, je voulais pas le citer, mais bon, si on...
Non, c'est moi qui le dis, donc c'est comme moi, le conseil de l'ordre, je sais pas. Peut-être que permixon, ils vont m'envoyer des boîtes.
Exactement.
C'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais.
Exactement, le permixon.
C'est ce que vous citez dans votre livre. Mais là, les études sont validées.
Hein. Voilà, il y a aussi un autre médicament que je n'ai pas mis dans le livre. C'est à base de pruniers d'Afrique aussi, des plantes de pruniers d'Afrique, qui a une réelle efficacité également.
Bien, je voudrais qu'on revienne sur le soja dont on parlait, parce que sur le soja, on lit tout et n'importe quoi. Déjà, Kaina, quand on parle du soja, vous dites qu'il faut l'utiliser sous quelle forme?
Voilà, quand on parle de soja, il faut déjà avoir un premier réflexe, se dire, attends, le produit que je suis en train d'utiliser est un produit issu d'un soja cuit, fermenté ou cru. C'est très important. À partir du moment où c'est issu d'un soja cuit, là, il n'y a plus de risque, parce que dans un soja cuit, si c'est cuit, souvent on parle de cuisson à plus de 100 degrés, donc cuisson à plus de 100 degrés, il n'y a plus d'hormones, il n'y a plus d'équivalent à des molécules telles que ce qu'on parlait tout à l'heure, les phytoestrogènes, merci. Du coup, ce type de produit, nous pouvons le consommer en toute tranquillité.
Mais vous, puisque je sais que vous aimez bien aussi les cuissons, vous le cuisez comment, vous, le soja?
Alors, ça dépend. Par exemple, si on...
Vapeur ou...
Voilà, tout dépend de comment on va cuisiner. Il y en a qui le font cuire. Il y en a qui font cuire le soja. Il y en a qui font des préparations. Même si on prend... souvent, les gens me demandent par rapport au tofu. On prend
parce que c'est du soja, le
exact,
tofu.
Voilà, c'est ça, le tofu, c'est du soja. On me dit, si je le cuis à la vapeur ou si je le mets dans une préparation à la poêle, est-ce que là, je crains rien? Évidemment, c'est toujours cette histoire de cuisson. S'il est cuit longtemps à haute température, oui, nous craignons rien. Par contre, si on prend certaines préparations qui sont du soja fumé, mais à base de, voilà, issu de soja, de fermentation de soja, pardon, là, pour le coup, si c'est issu d'une fermentation, mais ce n'est pas cuit, là, on a deux solutions. Soit de le cuire, soit de le consommer à petite dose, parce que là, pour le coup, les hormones persistent à l'intérieur. Enfin, ce qui est équivalent aux hormones persiste à l'intérieur.
Donc, on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, les bonnes hormones du soja qui sont bonnes pour la prostate, ce sont les
phytoestrogènes. Mais il y a quand même des études épidémiologiques qui ont montré que la consommation de 2 à 3 portions de soja par jour diminuait le risque de développer un cancer de prostate. Et on va même plus loin. Il y a des études qui ont montré que le fait de consommer du soja quand on a un cancer de prostate diminue l'agressivité du cancer et ça diminue le taux de PSA. Donc il y a un véritable intérêt à consommer du soja.
D'accord, mais
versus pour une femme où là on dit de faire attention parce que c'est équivalent à ses hormones et donc pour ne pas être excessif dans son apport. Donc c'est vraiment
parce que pour les femmes on dit que ça peut être vecteur de cancer du sein. Hein.
Bien sûr, parce que le cancer de la prostate comme le cancer du sein sont des cancers hormonodépendants.
On aurait dû commencer par là, docteur Ferry, j'ai oublié, mais c'est vrai que non, mais c'est important.
C'est important,
ça, de
oui,
dire,
c'est ça, voilà.
Et donc c'est vrai que la genèse du cancer de la prostate elle est liée au profil hormonal. On ne sait pas si c'est un excès de testostérone ou un déficit de testostérone ou le fait que la testostérone se transforme en une autre hormone qu'on appelle la dihydrotestostérone qui favorise le cancer de prostate. Quoi qu'il en soit, le fait de prendre du soja diminue cette production de testostérone et a un impact et une influence sur l'évolution du cancer ou sa prévention. Ça, on le sait, c'est un cancer hormonodépendant qui dépend de la testostérone et le soja qui est riche en phytoestrogène, qui est l'hormone de la femme, peut contrecarrer cette production excessive.
Donc c'est là où l'homme et la femme, c'est différent.
C'est différent. Voilà. Et là, quand on parle du soja, on parle donc du soja sous toutes ses formes, avec tous ses produits dérivés. C'est pour ça que vous parliez du tofu tout à l'heure. Mais il y a aussi les steaks. On n'a plus le droit de dire steak, mais toutes les préparations à base de soja. Les tempeh également.
Alors ça, il faut faire vraiment très attention parce que c'est quand même, comme vous dites, c'est des hybrides alimentaires. Ce ne sont pas des vrais aliments. Ça ne pousse pas dans nos champs. Donc c'est pour moi, c'est un hybride. Et quand c'est un hybride alimentaire, trop de sucre.
Le tempeh, je crois que c'est du soja fermenté. Et ce qu'il faut retenir, c'est à éviter, c'est le soja fermenté si on a vraiment un doute et on a peur. La sauce soja, le miso, ça, c'est à éviter, entre guillemets. Le reste, vous pouvez y aller.
Alors sauce soja, parce que très consommée, la sauce soja
très
aujourd'hui.
Très consommée en France.
Très
énormément.
Consommée. Donc, ça, non.
Bon, je pense pas que la petite coupelle qu'on prend pour manger 4-5 sushis, c'est ça qui va faire grand chose.
Ouais, encore une fois, tant que c'est pour le plaisir, manger ça de temps en temps, c'est pas dans l'excès. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'était par rapport au steak de soja. Là, il faut faire vraiment très attention parce que je ne sais même pas si on peut récupérer un bienfait de ce soja au niveau de ces hybrides alimentaires. Trop riche en sucre, trop gras, trop de tout. Donc,
non.
Non.
Bien. La bonne idée, dites-vous, c'est de l'associer le soja et la sauce tomate, évidemment, puisque la star, c'est la tomate, mais la tomate cuite. Pourquoi la tomate cuite a plus de vertus et plus d'impact sur la prostate que la tomate crue ?
Alors, la tomate, elle est riche en un antioxydant extrêmement puissant qu'on appelle les lycopènes. Et en fait, les lycopènes sont libérés lors de la cuisson. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux manger de la tomate cuite. Il y a beaucoup plus de lycopène, ce produit qui est un puissant antioxydant, pourra se libérer et inonder le corps. Mais on ne trouve pas du lycopène que dans la tomate. On peut en trouver dans la pastèque, la goyave, ces aliments qui sont très riches, ou le poivron, très riche en lycopène.
Très coloré.
Ouais. C'est ce qui donne la couleur, en fait, le lycopène.
D'accord. Donc l'action du lycopène sur le cancer de la prostate et donc a fait l'objet d'études.
Exactement. En fait, quand il y a un cancer, on voit qu'il y a une production importante de radicaux libres. C'est des produits de dégradation, c'est un peu compliqué. C'est des produits de dégradation, des toxines qui sont produits au niveau cellulaire et ça crée une inflammation chronique. Et dans le corps, on a des éléments naturels qu'on appelle des antioxydants. On voit ça fleurir un peu partout pour les crèmes cosmétiques, antioxydants, anti-âge.
Ou des compléments alimentaires aussi. Ouais.
Exactement. Et ça lutte contre l'oxydation, contre la production de ces antioxydants. Et le lycopène est un des aliments qui est un puissant antioxydant et qui lutte contre cette inflammation chronique et diminue le risque de développer le cancer de prostate.
Alors si on pouvait un petit peu le formaliser, on dirait que c'est comme des petites éponges qu'on envoie à l'intérieur du corps et c'est ces fameuses éponges lycopènes, antioxydantes, etc. qui vont venir absorber toutes les toxines qu'il y a dans notre corps et ça permet de rejeter toutes ces toxines.
D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle du curcuma. Alors, le curcuma, c'est la star d'un peu tout, hein. Finalement, quel est le principal composant actif du curcuma et en quoi ce composant est-il donc actif sur les cellules cancéreuses ?
En fait, c'est la curcumine. C'est un élément aussi, c'est un puissant antioxydant. En fait, tous ces aliments, ils ont la particularité d'avoir en commun, tous ceux qu'on a listés dans le livre, d'avoir une puissante action antioxydante qui lutte contre le cancer.
C'est des vraies éponges. Voilà. Quand elles arrivent dans le corps, elles absorbent vraiment toutes ces toxines. Et ça nous permet donc d'évacuer ces toxines grâce à ces éponges qui sont le lycopène, le curcuma.
Le curcuma, il a en plus une action spécifique sur la multiplication des cellules. Il lutte contre la mort programmée des cellules. En fait, les cellules cancéreuses, ce sont des cellules qu'on appelle immortelles, en fait, qui ne meurent jamais, qui ne font que de se diviser. Et en fait, toute cellule, normalement, elle doit mourir à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. C'est un terme un peu compliqué. Et en fait, le curcuma permet d'entraîner une apoptose de ces cellules cancéreuses qui, normalement, ne devraient pas mourir et les font mourir.
Par contre, attention,
oui.
Le curcuma, comme si on parlait de gingembre, de lycopène, etc., attention, le curcuma n'est efficace, la curcumine n'est efficace que si l'on va la chercher directement dans la racine.
Donc, sous quelle forme on
donc, consomme... en réalité, c'est acheter les racines que l'on voit maintenant de plus en plus accessibles, les râper, c'est là où on va libérer immédiatement le principe actif et nous allons l'absorber. Par contre, j'en doute que dans des produits qui sont déshydratés, qui sont montés à haute température pour concevoir un complément alimentaire ou autre, soit vraiment efficace.
Bon, à vos râpeuses.
C'est cela.
À vos râpettes.
Les gélules, là, qu'on voit fleurir sur...
Mais j'ai regardé, parce qu'il y en a...
Ah, il y en a un paquet, c'est extraordinaire.
Alors, ça, c'est un business.
Mais oui,
et le pire, c'est que si vous cliquez une fois sur dessus, alors vous êtes arrosé de publicité sur le curcuma.
Ça,
incroyable.
Le curcuma, il a aussi une action sur le cancer, mais on a montré que même, il pouvait potentialiser les traitements du cancer de la prostate, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est-à-dire les rayons qu'on envoie sur la prostate pour détruire les cellules cancéreuses, le fait de consommer du curcuma pourrait augmenter l'efficacité de ces traitements.
Et c'est pour ça qu'il y a certains patients, d'ailleurs, ils vont se faire des infusions avec le curcuma frais 3 jours avant leur chimio, le jour de leur chimio et 3 jours après. Et donc, ils se font vraiment des infusions de curcuma matin, midi et soir pour potentialiser leur action de chimiothérapie.
Pendant le traitement.
Exactement.
Les docteurs Kaina Oussedik et le docteur Karim Ferry sont là aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Je gâte ma prostate » aux éditions Flammarion. Et on en parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bon, quel est l'organe du corps humain le plus riche en zinc, docteur Karim Ferry?
Eh bien, c'est la prostate.
C'est vrai.
Exactement. En fait, le liquide séminal, le liquide, parce que la prostate, ça sert à quoi? Principalement à produire du liquide séminal. C'est ce qui constitue, entre guillemets, le sperme. Le sperme, c'est fait à 95% de liquide séminal produit par la prostate et les vésicules séminales et 4 à 5% des spermatozoïdes qui proviennent des testicules. Et le zinc est un élément important du liquide séminal qui permet d'entretenir, de rendre performant, entre guillemets, les spermatozoïdes qui ont une fonction, c'est la fécondation.
Chers messieurs, tous à vos zincs.
Mais non, mais attends, je me dis, les gens qui écoutent, ils se disent, ah ben voilà, je t'avais dit que le zinc, c'était bon. En plus, comme c'est bon pour le Covid, comme ça, on est tranquille.
Ah, mais attention,
oui.
Parce qu'on fait un aparté dans le livre. Le zinc, en complément alimentaire, il faut faire attention, parce que c'est des doses qui sont trop élevées
par rapport
à ce dont on a besoin. Donc, il y a des études qui ont montré que consommer trop de compléments alimentaires à base de zinc et de sélénium, ça avait un effet contre-productif sur le cancer de la prostate. Donc on met un holà.
Même si on dit que le sélénium, c'est un très bon oligo-élément.
Ouais, mais exactement, mais le fait de les avoir combinés et de les avoir pris en
même
haute
temps.
Dose,
ouais,
c'est
temps,
pas...
c'est les deux, c'est l'alliance des deux qui ne fait pas bon ménage.
Exactement.
Donc, l'alliance des deux à haute dose.
Complément.
Parce que dans les compléments sont toujours trop excessifs en sélénium et en zinc. Ce sont des doses
énormément de
que vous n'absorbez pas normalement au quotidien.
Ça, c'est important ce que vous dites, c'est que finalement, les produits dont nous parlons ce matin se trouvent dans l'alimentation.
C'est ça.
Donc pas forcément en complément alimentaire.
Tout à fait.
Tout existe en frais.
Exactement.
Et Kaina, c'est pas un miracle. Évidemment qu'il faut pas manger que ça. L'important, la base, c'est la bonne combinaison.
Exactement, c'est ça. C'est combiner tous ces aliments riches en zinc, en sélénium, en lycopène, en antioxydants, bien les combiner dans leurs assiettes. Donc ce qu'on expliquait déjà dans le premier livre, La magie de la digestion, c'était qu'il fallait respecter une certaine manière d'associer ces aliments dans son assiette afin de pouvoir obtenir des bonnes digestions et donc une bonne absorption par nos cellules. Vous savez, nous, on va sortir faire le marché, on va vouloir acheter des légumes, des protéines, des fruits. Eh ben, dites-vous que lorsque vous variez votre alimentation dans votre assiette, c'est la même chose. Tout passe dans le sang et vos cellules, elles sont là, elles vont capter leurs légumes, fruits, etc.
Elles font leur marché.
Elles font leur marché, voilà. Par contre, faut juste se rappeler que ça soit pour la prostate ou que ça soit pour d'autres organes, nos cellules qui font leur marché, elles ont un seuil qu'il faut pas dépasser, dans le sens où nos cellules sont incapables d'absorber 3-4 grammes d'un minéral ou d'une vitamine, ou voilà, l'absorption naturelle dans un corps humain, il faut la respecter. Si dans un corps humain si on dépasse le 1 gramme de vitamine C, on sait que nos cellules vont pas pouvoir l'absorber.
On l'urine.
Voilà, ça ne sert à rien de prendre un complément alimentaire à 4 grammes de vitamine C.
C'est pas parce que c'est surdosé que l'effet est meilleur.
Nos cellules, elles ont appris à absorber une certaine dose. Donc elles s'auto-réglementent et elles s'auto-gèrent. Donc ça ne sert à rien d'absorber des aliments ou des minéraux extrêmement concentrés alors que nos cellules ne vont pas les absorber.
Alors, le docteur Ferry nous parlait tout à l'heure des IGF-1, un bon aliment pour justement contrecarrer les effets des IGF-1, c'est la noix.
Oui. Alors, la noix, c'est riche en oméga-3, qui est un acide gras polyinsaturé et qui est extrêmement important et qui est un puissant anti-inflammatoire. Comme on le sait, l'inflammation fait le lit du cancer. Donc manger une poignée de noix par jour, ça peut vous aider pour protéger votre prostate. Mais pas que, ça a aussi un puissant effet sur les maladies cardiovasculaires. Donc vous pouvez prévenir aussi les infarctus, les AVC et l'hypertension artérielle. Ça lutte aussi contre les infections. Donc les noix ou les oléagineux sont des aliments extrêmement importants, faciles à acheter et à consommer.
Quand on parle de noix, on peut parler aussi d'amandes, de pistaches, de tous les oléagineux en général. Et souvent, on va lire tout et n'importe quoi. Prenez 4 noix par jour, prenez 10 noix, prenez 6 noix. En réalité, notre meilleure mesure reste notre poignée.
La poignée de la main.
Exactement.
Et donc, pas salée, hein. C'est pas les noix apéritives.
Sans sucre, sans sel.
Voilà,
oui, exactement. Et ce qui rentre dans votre poignée, c'est la quantité que vous pouvez absorber sans être excessif.
Vous avez une petite faim, vous prenez une petite poignée de noix. Vous ne mangez pas de sucre et en plus vous mangez de bons aliments pour vos organes, pour vos vaisseaux.
Le thé vert, alors lui aussi, paraît de toutes les vertus. Qu'est-ce qui est incroyable et qu'est-ce qui est bon dans le thé vert ?
Alors, le thé vert, c'est très riche en polyphénols, qui sont aussi de puissants antioxydants. Et dans le thé vert, il y a la catéchine, qui est l'un des polyphénols les plus puissants qui existent et qui a une action anti-inflammatoire, anti-cancéreuse, qui a une action aussi au niveau des maladies cardiovasculaires, qui prévient même la maladie d'Alzheimer.
Donc, vous expliquez qu'il y a plusieurs types de catéchisme, pour ceux qui sont vraiment, pour les puristes.
Et donc, il faut consommer le thé vert en infusion. Il faut bien le laisser diffuser pour que la catéchine puisse être libérée au niveau de votre boisson et que vous puissiez en retirer les bienfaits. Donc il faut boire, les études ont montré que c'est 2 à 3 tasses de thé vert par jour qui permettent d'avoir la meilleure efficacité. Alors il y en a qui, en France, enfin dans le monde, on consomme 20% de thé vert et 20% de thé rouge. Ça devrait être l'inverse parce que le thé rouge, il est plus oxydé, donc il est moins riche en catéchine.
Et la durée idéale d'infusion donc? Est-ce que plus c'est infusé, meilleur c'est ou pas ?
Une dizaine de minutes, c'est suffisant. Je pars sous le contrôle du docteur Ousdik.
C'est ça. Et puis attention, faire attention à ceux qui sont anémiques ou à ceux qui ont un problème ou des carences de fer. Là, il faut être beaucoup plus prudent avec tout l'été en général, je dirais.
Alors, très à la mode, le jus de grenade. Tiens, depuis quelques années, on parle beaucoup du jus de grenade et de ses effets pour la santé. Il y a même de plus en plus de boutiques qui vous proposent du jus de grenade frais. Alors, quand on parle de jus de grenade, c'est bien sûr frais, docteur Ferry.
Alors, c'est là où nous ne sommes pas d'accord.
Ah, enfin.
Juste un bémol. Je pense que s'il y a vraiment un aliment qui est extrêmement efficace, qui a montré dans les études qu'il y avait un réel intérêt pour le cancer de la prostate, ce qu'il faut mettre en exergue, c'est vraiment la grenade. Alors le jus ou la grenade, mais c'est la grenade parce que à la fois il y a un effet préventif mais il y a aussi une action directement sur les cellules cancéreuses. Et on a des patients qui prennent, par exemple, qui ont un cancer de prostate, qui ont un PSA un peu élevé. Le fait de prendre du jus de grenade, en 3 mois, ils diminuent quasiment de moitié leur taux de PSA.
Mais donc c'est eux qui font eux-mêmes leur jus de grenade. C'est pas un jus de grenade acheté avec du sucre blanc, du sucre raffiné ou autre.
Acheter une grenade et puis soit vous mangez
la grenade,
les pépins à l'intérieur, ou alors vous la pressez vous-même. Parce que quand on achète le jus de grenade en magasin, en fait, il est assez enrichi en sucre. Et
il y a des conservateurs aussi. Donc les conservateurs vont empêcher l'efficacité réelle de l'aliment. C'est là où nous n'étions pas totalement d'accord. Moi, je suis pour la grenade entière.
Et pas pour le jus.
C'est ça.
On est d'accord.
Parce que
par commodité, on achète le jus. Mais
Souvent, les jus, il y a des conservateurs, beaucoup de sucre. Du coup, on réduit l'efficacité des molécules qu'il y a dedans.
Mais on l'explique bien dans le livre, qu'il faut privilégier le fruit en lui-même.
Bon, l'ail.
Ah, l'ail.
Bon. Déjà, l'ail, quand on parle de l'ail, on parle d'ail cuit ou cru ?
Alors, bon, vas-y.
Oui, peut.
Est-ce que l'action est la même ?
Alors attention, c'est comme l'histoire de la tomate, c'est la même histoire. Voilà, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on va faire cuire, on va libérer les molécules, et donc du coup, ça va être l'efficacité est différente pour tous les aliments cuits, crus. L'efficacité est ce que nous voulons faire,
Parce qu'en fait, au niveau de l'ail, quand on croque l'ail, on libère une enzyme qui s'appelle l'alinase, pour les puristes, qui va après transformer la lysine en produit organosulfuré. C'est ce qui donne un peu le goût un peu soufré de l'ail.
C'est ces
produits-là, en fait, qui ont une action extrêmement puissante au niveau du cancer, mais aussi au niveau cardiovasculaire, au niveau antibactérien, anti-infectieux. Mais il n'y a pas que l'ail, il y a aussi la ciboulette, l'oignon, tous les aliacés sont extrêmement importants. Et dans votre cuisine, vous pouvez saupoudrer d'oignons, d'ail, de toute votre alimentation.
Mais il faut les mâcher, si j'ai bien compris. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour libérer le principe actif,
il ne faut pas
avaler la...
Il faut mastiquer.
C'est comme si vous voulez faire cuire de l'ail. L'astuce, comme l'avait précisé le docteur Ousdik, il faut couper l'ail, vous le hachez, comme ça le bris permet de libérer l'enzyme. Vous attendez une dizaine de minutes et après vous pouvez faire cuire votre ail et vous aurez libéré votre enzyme qui va être efficace.
Tous les jours ?
Il y en a qui consomment de l'ail tous les jours.
Ouais, c'est ça, la fréquence d'absorption.
Non, c'est quotidienne, mais vous pouvez mettre de l'ail dans vos plats. Mais. En fait, ce qu'il faut retenir dans le livre, c'est qu'il faut manger tous ces aliments le long de la semaine, en fait. Il faut alterner, vous mélangez un jour du brocoli, le lendemain, vous mangez beaucoup de sauce tomate, après, vous prenez votre thé vert tous les matins ou tous les soirs, avec une grenade au réveil, et ainsi de suite.
Bon, on va terminer par les légumes crucifères, puisque vous parliez de brocoli. Les choux, on soignait la surdité avec les choux auparavant.
Alors ça, j'ai pas...
Non, pas ça.
Mais c'est l'un des aliments les plus anciens sur la planète.
Par exemple, les gangrènes ou autres, on pouvait utiliser des feuilles de chou comme cataplasme. Alors, le chou, c'est vraiment l'aliment préféré du docteur Ousdik. Mais c'est extrêmement important. Ils ont une puissante action anticancéreuse avec des polyphénols. Et donc, il faut consommer... L'aliment qui en contient le plus, c'est le brocoli. C'est là qu'il faut manger, ou le chou-fleur.
Brocoli, chou-fleur, choucroute en ce moment.
Alors la cuisson aussi est extrêmement importante.
Oui, c'est ça. Dans un premier lieu, il faut les blanchir, parce que souvent, les choux comportent certaines molécules qui peuvent rendre la digestion un petit peu compliquée chez certaines personnes. Donc on va les blanchir, il y en a qui les font bouillir à la vapeur, etc. Et après, les faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'ail, un petit peu de ciboulette, pourquoi pas, ou les manger sous la forme d'une choucroute, c'est aussi bénéfique, car lorsqu'ils sont cuits, ils vont permettre à ce qu'on appelle notre microbiote, notre flore intestinale.
C'est lactofermenté en plus.
C'est ça, exactement. C'est lactobacillus. C'est tout à fait ça, exactement. Donc c'est bénéfique.
Bon, on l'a compris ce matin avec vous deux, la santé est dans l'assiette. Ouais. La suite est bien sûr dans votre livre, puisque vous déclinez tous les aliments qui sont des amis de la prostate, soit en prévention, mais soit aussi quand elle est malade, on l'a vu ce matin, en cas de traitement et en cas de cancer. Votre livre s'appelle « Je gâte ma prostate », c'est chez Flammarion. Merci à tous les deux d'avoir été ce matin.
Merci à vous.
Merci, Philippe.
C'est bien de vous avoir tous les deux.
Bonne journée.
Bonne journée, et vous réécoutez l'émission en podcast et vous voyez l'émission sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.